I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça va être une autre paire de manches, ouais. Hein. Puis tu vas moins rigoler, hein, je veux te dire, tu vois.
Ouais, ça va filer droit, là. Hein.
Ah, va
ça va être fini, les trous dans le pantalon.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, on revient à l'actu.
Parce qu'il y a une actu.
Il y a une actu cinéma. Mmh. Une actu cinéma qui nous concerne. Mmh. C'est pas les gros bras, c'est pas l'exégèse des gros bras. Mais.
On va en parler, ça c'est bien. Voilà. C'est un autre concept de héros d'action.
Voilà, exactement. Et c'est un film d'animation, un film d'action aussi, d'aventure en fait. Lupin 3. Mmh. Alors The First, c'est comme ça que ça s'appelle aussi en France.
Ouais.
C'est ça. Et c'est une nouvelle adaptation en fait des aventures du personnage de Lupin 3 quoi.
Voilà, c'est
je
ça.
Suis avec Julien Dupuis pour en parler. Julien Dupuis, spécialiste S Lupin 3.
Ouais.
En fait, j'ai envie de dire, si tu veux. Voilà. C'est... Est-ce que ça existe dans le monde, t'es le premier. Voilà, donc on en parle quoi. Alors Lupin 3, c'est la énième adaptation.
Oui, ouais. Oui. Alors il y a eu plusieurs adaptations au cinéma. C'est un personnage qui est créé par Monkey Punch. C'est un manga à la base.
Qui nous a quitté récemment.
Qui est mort en fait. C'est Lupin 3 The First. C'était un projet qu'il a porté depuis très longtemps et il n'aura pas vu le produit fini puisqu'il nous a quitté peu avant. Donc c'est un personnage qui vient d'un manga, qui a été adapté en série animée, qui avait déjà été exploité en France, mais sous le nom de Edgar de la Cambriole parce qu'il y avait eu un problème avec les ayants droit de Maurice Leblanc parce que le concept de Lupin 3, c'est que c'est pas le troisième opus d'une série de qui s'appellerait Lupin, mais c'est
le petit-fils d'Arsène
Lupin. Donc c'est une version modernisée de façon relative aujourd'hui puisque
c'était les années 60-70.
Voilà, c'est ça, des aventures de Arsène Lupin. Donc c'est le personnage principal est un cambrioleur, un charmeur également, toujours un peu fauché, parce que finalement, même si c'est un voleur d'exception, il se retrouve toujours à faire le bien, plus ou moins malgré lui, et ça fait partie de son charme, qui est un personnage un petit peu anard et qui est un peu, alors plus ou moins selon les adaptations, et qui est toujours flanqué d'acolytes haut en couleur, un personnage qui est... un peu renfrogné, qui est un tireur d'élite, et ce qui peut sembler totalement incongru quand on ne connaît pas la franchise, un samouraï,
ouais.
Qui est toujours aussi, en tout cas, qui fait partie de beaucoup de ses aventures.
Et tout ça, sont des personnages hyper cool aussi. Quoi.
Voilà.
Comme lui d'ailleurs, en fait.
Et le truc de Lupin, qui est un des trucs qui, moi, je trouve fonctionne très bien dans ce nouveau film, à nouveau, c'est que c'est un personnage qui est non violent total. C'est-à-dire que non seulement il n'utilise pas d'armes, mais lui-même ne frappe pas, en fait. Alors, je ne connais pas suffisamment la franchise pour vous assurer.
Ah, t'es pas
ici.
Le spécialiste
Non,
Lupin
non, bah
3,
non, malheureusement, tu vois, tu t'es trompé. Il faut que tu cherches quelqu'un d'autre. Mais il est... Donc, je ne sais pas s'il frappe parfois dans le manga et tout, mais en tout cas, dans tout ce que je connais du personnage, il ne donne même jamais de pitch net ou de coups comme ça. Et ça fait partie des trucs qui sont assez réjouissants chez le personnage, c'est qu'il arrive toujours à s'extirper de situations extrêmement tendues, mais juste avec des petites galipettes, avec en évitant les coups, etc. Donc ça donne lieu à la fois des principes scénaristiques qui sont intéressants, et puis aussi à des chorégraphies, moi j'aime beaucoup ça dans le film, de combats qui sont vraiment tout à fait savoureuses, en fait, parce qu'elles sont atypiques, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un antagoniste qui, lui, va y aller à fond, et Lupin, qui lui va réussir à éviter les coups d'une façon plus ou moins habile.
Alors il y a une référence, en fait il a une inspiration, une source d'inspiration aussi, hein, Lupin 3, pour qu'on donne un point de référence pour les auditeurs français, donc puisqu'en général on est en français, donc en fait voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'auditeurs autres que français, en tout cas francophones. Et c'est aussi que, en gros, un des points de référence en fait de Monkey Punch, c'était Belmondo pour le personnage. Donc en fait il y a une espèce de côté goguenard comme ça, très agile. très voilà et qui
bah, Bebel il a infusé beaucoup énormément sûr, ouais. dans la japanime, c'est-à-dire que moi je
Cobra,
trouve
évidemment,
bah il y a Cobra, ça c'est la référence la plus connue parce que visuellement c'était lui directement, mais même Ryo Saeba dans City Hunter, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait quelque chose de Bebel en fait là-dedans, donc il a toujours, et effectivement il y a ça aussi dans Lupin, et en plus dans Lupin 3 The First, alors ce qu'il faut qu'on dise aussi dès le début, c'est que c'est le premier film en image de synthèse du personnage qui est donc adapté qui a été adapté en live par Kitamura, mais qui a été aussi donc réalisateur de Versus, qui est un film sur lequel on reviendra un jour dans Stéroïdes
certainement,
et il a été adapté surtout en animation en 2D, ça c'est ce qui est le plus connu. Il faudra peut-être qu'on revienne sur Cagliostro au cours de cet épisode là Le château de Cagliostro, qui est le premier long métrage de Miyazaki, qu'il faut, bah peut-être qu'on peut en parler tout de suite, qui est un film qu'il faut absolument qu'on voir quand on aime le cinéma d'action,
oui,
le cinéma d'espionnage.
C'est relativement abordable aujourd'hui.
Totalement,
le voir en
il était ressorti en salle il n'y a pas longtemps, je crois, il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Il est disponible en Blu-ray, il est disponible en DVD. Et c'est donc le premier long métrage en fait, de Hayao Miyazaki avant Nausicaa. Et c'est un film que Miyazaki avait fait en un temps absolument record. Il avait bossé comme un fou là-dessus. Il y a Toshio Suzuki dans son livre qui sera amené à devenir le producteur attitré de Miyazaki, qui raconte dans son livre « Produire en s'amusant » que à quel point c'était hallucinant de voir Miyazaki travailler dans cette urgence-là. Et franchement, si vous aimez Stéroïdes, si vous aimez les films d'action et tout, c'est un film qu'il faut absolument voir tout à fait récent, parce que certes, on retrouve Miyazaki, il y a ce côté un petit peu éthéré, un peu poétique, il y a une histoire d'amour qui est au cœur du film.
C'est extrêmement dynamique.
Mais voilà, c'est un sacré film d'action qui s'ouvre sur une scène de poursuite en caisse qui est délirante, qui est trop bien, quoi, qui se conclut sur une scène d'action au milieu d'horloges, de rouages dantesques, qui sera complètement pompé dans Basile Détective Privé, le film Disney, mais auquel rendra directement hommage aussi Guillermo del Toro dans Hellboy 2, dans le final de Hellboy 2.
Alors, c'est disponible en fait en Blu-ray, c'est sorti chez Kazé.
C'est chez Kazé, voilà. C'est ça. Et à l'intérieur, bon voilà, tout le film en fait tourne autour d'un château détenu par un grand méchant. Et à l'intérieur de ce château, bah, t'as plein de pièges, t'as des passages souterrains, t'as une séquence, t'as même un côté un peu James Bond avec Lupin qui a des séquences sous-marines par exemple, ou des trucs comme ça. Et c'est franchement, c'est un film mais absolument réjouissant. C'est un pur film d'action et Lupin 3 The First a l'ambition de renouer avec ça.
Alors,
sauf que c'est pas tout à fait le cas, effectivement.
Et c'est pas de cette qualité-là non plus.
C'est pas aussi inspiré. Donc, c'est le premier film en image de synthèse et c'était hyper prometteur parce que nous, le film a été vendu, mais aussi au Japon, avec un premier teaser qui est une séquence du film en fait, qui est une séquence de poursuite sur le périphérique parisien, donc avec tout ce que nous on croise en fait dans le quotidien, qu'on vive à Paris ou pas, hein, d'ailleurs, parce que t'as les panneaux que nous on voit au quotidien et tout, sauf que c'est une course poursuite échevelée et que moi c'est une scène d'action que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Sauf que quand tu vois le film, c'est peut-être la scène d'action la plus réussie du film, en tout cas c'est une des scènes manifestement la plus réussie, et surtout il n'y en a pas tant que ça en fait des scènes d'action de ce type là parce que le gros problème en fait de ce Lupin 3, enfin un des gros problèmes, c'est un problème de rythme en fait. Moi je trouve que la narration est un peu chaotique, elle est un peu compliquée et alambiquée pour pas grand chose finalement, il y a manque d'efficacité.
On peut peut-être pitcher vite fait cette aventure, quoi.
Vas-y, je t'en prie.
Bah, en gros, alors ça débute dans les années 40. Les nazis recherchent le carnet, enfin de Bresson en fait,
c'est ça,
du professeur Bresson, quoi, une référence assez évidente, quoi. Parce que ça, c'est aussi c'est un des trucs en fait dans Lupin qui c'est beaucoup infusé par la culture française en fait, c'est-à-dire qu'il y a effectivement Arsène Lupin en soi, mais il y a beaucoup
et celui-là spécialement, voilà, parce que en fait Lupin part à la recherche ce carnet de Bresson, c'était aussi un des trucs que son aïeul en fait recherchait,
voilà. Et en gros, donc ce carnet, c'est en fait c'est un espèce de mécanisme d'horloge en fait, si tu veux, qui à plusieurs parties qui sont éparpillées du coup dans le monde, et 30 ans après, donc c'est pas tout à fait peut-être 20-25 ans après, c'est pas tout à fait daté, mais en fait l'aventure commence dans les années 70, et en gros il y a plusieurs cambriolages pour essayer de récupérer ce carnet là, qui mènerait, en fait, si tu veux, à quelque chose de plus fort, quoi. Voilà. Une espèce de d'arme totale, céleste, quoi. En fait, voilà. Et qu'il faut évidemment empêcher de comment dire, d'être récupéré, de tomber dans les mauvaises mains. En l'occurrence, des plus ou moins des néo-nazis.
Bah, des néo-nazis, voilà. Carrément, ouais, qui veulent mettre cette arme au pouvoir. On spoil, hein.
On va essayer de minimiser le spoil là-dessus, on va dire, parce que c'est
enfin bon, disons que c'est des vrais néo-nazis, ouais, voilà, c'est très clairement relié à la Seconde Guerre mondiale, voilà. À Hitler et tout, quoi, voilà.
Voilà. Et donc, en gros, alors il y a cette volonté, clairement, pour le coup, de faire un truc très 70s, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une remodernisation du personnage dans ça pourrait être un soft reboot, on pourrait dire, si tu veux. Il y a vraiment la volonté, jusque dans le générique d'ouverture, de faire un générique 70s à la James Bond, à tous ces trucs de référence, Inline Flint, par exemple, ce genre de choses, en fait.
Ou Avengers aussi.
Voilà, c'est ça. Alors, le chapeau et bottes de cuir, attention. Et... pas de point Avengers ici, s'il te plaît, tu vois. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté là. Après, là où toi et moi on n'est pas tout à fait d'accord, j'ai l'impression, sur les qualités du film, c'est que moi je m'étonne de la façon dont l'image de synthèse, et je parle en fait dans l'animation, est exploitée par rapport aux distinctions qu'on peut faire entre l'animation, on va dire, occidentale. Et l'animation japonaise, qui a quand même chacun ont leur spécificité. Et je trouve que là, alors j'ai pas vu beaucoup de films d'animation japonais en images de synthèse.
Bah, il y en a pas non plus des tonnes, hein. Voilà. Mais oui.
Et donc, du coup, je me suis étonné en voyant ce film-là de me rendre compte que, en fait, finalement, il y a quand même beaucoup d'occidentalisation, en fait, dans l'utilisation d'images de synthèse, et vraiment de l'animation, je parle de l'animation pure et dure, un peu dans le design aussi quand même, faut être honnête, parce que du design à la japonaise, il y en a finalement, moi je trouve, beaucoup moins que ce
c'est
qu'on voit.
C'est plutôt respecté, moi je trouve, dans le film, ça.
Mais... Bah, en fait, le truc, c'est que je pense par exemple à cette
arme, ouais, qui ça, est clairement très occidental.
Voilà. Ouais. Moi je trouve que c'est très japonais, justement, la façon dont ils utilisent.
Attends, bah, je trouve que le côté arnouille biomécanique et tout.
Ouais, mais avec comment t'appelles ça, les ailes célestes, enfin, tu vois, ce genre de truc, etc. Ça fait très japonais, quoi, tu vois. Et après, par contre, moi, je pense surtout notamment à la façon dont c'est animé, la façon dont c'est mis en scène.
Alors, ça, mais on n'est pas d'accord, apparemment. Il y a deux choses, en fait, que moi, je distinguerais là-dedans, mais ça, je pense que c'est le point le plus intéressant. C'est-à-dire que le film est sympa, quand même, il faut le dire. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment
c'est
pas désagréable.
Bien sûr.
Et on a à peu près situé le film dans le truc. Après, c'est vraiment un film de faiseur. C'est-à-dire que ce réalisateur... Enfin, moi, je l'avais pas vu, son film sur... son film de guerre et tout, auparavant, mais... C'est quand même, tu as un peu l'impression de voir un faiseur.
C'est Takashi Yamasaki.
Ouais, c'est ça.
Pour référence, hein, parce que c'était sorti en France en vidéo à l'époque. Ouais. Moi, je l'avais vu comme ça. Il a fait The Returner.
Ah, c'est lui qui avait fait The Returner.
C'est ça, qui est quand même pas. Qui était un très gros blockbuster à l'époque, hein, mais qui était vraiment pas un très bon film d'action, quoi.
Non, enfin, c'est
clair. De SF, quoi.
Mais c'est très propre. Et il avait fait ce film d'espace.
Et très influencé, très influencé par Matrix et compagnie à l'époque.
C'est ça, hein, exactement. Ouais. Et puis, bon, il y avait quand même du méca. Je me rappelle à la fin de The Returner qui était sympa. Et il avait fait aussi ce film d'espace, Space Battleship Yamato, non qui était aussi sorti chez. Alors, je crois me souvenir que c'était Wildside qui l'avait sorti directement en vidéo aussi. Et qui, pareil, en fait c'était. Tu avais un peu le même problème que Returner, c'est-à-dire que tu avais un soin énorme, en fait, à porter. Techniquement, c'était un film qui était quand même assez propre, qui était relativement généreux, mais alors qui était hyper plombant, avec des personnages qui étaient vachement désincarnés, des séquences avec les comédiens en live qui n'étaient pas non plus très inspirés et tout. Et du coup, tu te retrouvais avec un film qui était au final très frustrant parce que tu te doutais que ce n'était pas non plus un budget équivalent à des grosses productions américaines. Et pourtant, dans la totalité du film, bah, tu avais quand même... C'était relativement généreux, je veux dire, comme film, et surtout d'une bonne qualité. Mais le film n'était pas satisfaisant parce qu'il était avec un rythme très plombé. Et encore une fois, qui te donnait pas beaucoup de corps, en fait. Voilà. Et du coup, qui m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable. Et c'est un peu la même chose avec Lupin 3, en un peu moins pire. Et justement, je pense que le point le plus intéressant à dire sur Lupin 3, enfin, sur lequel on peut épiloguer le plus, c'est effectivement sur ce rapport à l'image de synthèse dans l'animation japonaise. Moi, j'ai envie de distinguer trois choses, en fait, sur le passage en 3D et en CGI. C'est, la première chose, c'est ce qu'on appelle le look dev, c'est-à-dire le travail sur les textures, qui est un des gros défis, et qui est très délicat à gérer, parce que le principe, en fait, de Lupin 3, c'est que les formes, la modélisation, on va dire, même des personnages restent en adéquation avec le côté... japanime, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes tailles d'yeux, notamment chez les personnages féminins. Mais par contre, les textures, en fait, sont définitivement apparentées au photoréalisme, à la fois dans leur façon de réagir aux éléments, à la lumière, et même dans leur finesse, quoi. Et moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'il y a un équilibre là qui est trouvé où c'est jamais malsain. Ça revigore quand même l'imagerie que tu pouvais avoir du CGI. Ça plombe pas pour moi la lecture aussi des images du tout, et ça rajoute une vraie richesse. Et moi, est-ce que tu l'as vu avec un lien ou tu l'as vu en salle?
Parce non,
que moi,
non, mais
moi je l'ai vu en salle et c'était vraiment agréable, vraiment
le
plaisant.
Le truc, c'est que en gros, même là, en fait, quand tu le vois propre, le questionnement, en fait, si tu veux, alors on parle d'animation pure.
Alors
et
après, il y a d'autres choses, voilà.
C'est-à-dire que pour moi, en fait, si tu veux, par exemple, il y a déjà, je pense, le problème, peut-être, est aussi une question de comparaison. C'est-à-dire que, en fait, on parle d'un budget quand même plus moyen que les énormes budgets américains sur les films d'animation.
Voilà.
Mais après, personnellement, je fais quand même une énorme distinction, par exemple, entre ce que fait Pixar, admettons, tu vois, et DreamWorks, tu vois. Même là, en termes d'animation, il y a une distinction, je trouve, de qualité, tu vois, assez flagrante, en fait. Et par exemple, un des exemples tout bête. Mais qui est vraiment un truc, ça va vraiment être un exemple stupide, en fait. C'est-à-dire, au début, il y a une petite poursuite en bagnole, toute petite poursuite, en fait, sur les routes de France. Et l'animation des voitures, je la trouve hyper mécanique, en fait. C'est-à-dire, je la trouve hyper, en fait, presque précalculée, en fait, si tu veux, dans la façon dont tu vois la voiture bouger. Et c'est un truc, en fait, ça m'a fait me poser la question, en fait, sur comment c'est fait, par exemple, dans l'animation japonaise, si tu veux, traditionnelle, et comment eux ont trouvé, justement, des palliatifs pour rendre ça plus vivant. Tu vois, et en fait, du coup, ça m'a peut-être teinté ma vision du film. C'est resté un peu dans ce cadre-là, quoi. Et en fait, c'est ça qui a été un peu, compliqué, parce que du coup, j'ai l'impression que les mecs utilisaient une espèce de lumière. T'as l'impression qu'il y a quand même une volonté dans ce film, beaucoup, de le vendre à l'international. C'est-à-dire pas de respecter que le public japonais, quoi.
Je sais pas, ça, parce que...
Alors après, est-ce que c'est la volonté aussi du réal? Je sais pas si lui, je veux dire, The Returner, par exemple, parce que c'est mon point de référence par rapport à ce qu'il a fait auparavant, c'était déjà ça. C'est-à-dire, il y avait déjà une volonté, malgré le fait que c'était avec Takeshi Kenshiro, tout ça, etc., c'était clairement un film japonais, il y avait quand même une volonté énorme de draguer, en fait, le public occidental, quoi. Et j'ai un peu cette impression-là, moi, sur cette version de Lupin 3, quoi.
Moi, je distinguerais deux choses là-dessus. Et c'est là où je pense qu'on a un point peut-être de désaccord, c'est que je distinguerais...
On a toujours des points de désaccord.
Toujours, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bon, et c'est ça qu'Alain aime aussi. Mais en fait,
il acquiesce en fait de sa tête, je sais pas, mais il acquiesce de la tête, donc en fait, c'est que tu dois avoir raison quelque part.
Bref, oui, de quoi ils ont parlé de moi alors qu'il était en train de jouer à Candy Crush? Mais alors, le truc, c'est moi, je distinguerais deux choses. Je distinguerais d'une part l'animation et d'autre part la réalisation. En ce qui concerne l'animation, personnellement, moi je l'aime beaucoup, en fait, l'animation de Lupin 3 The First, parce que en fait, elle est pour le coup, il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est l'animation typique japonaise et comment ça fonctionne
dans l'emploi de la pose.
Voilà, c'est-à-dire que là il y a du ce qu'ils appellent, alors c'est du jargon, pardonnez-moi, mais c'est le posing, c'est-à-dire que t'as des poses clés, en fait, des personnages dans leur attitude, des personnages ou des véhicules, hein, pour reprendre le truc de la poursuite, mais qui est très très forte et avec une absence de finesse volontaire, en fait, entre ces poses très fortes et qui sont hyper assumées et qui, moi, me plaisent parce que c'est comme pour le look dev, en fait, comme pour la recherche de texture, en fait, il y a un truc qui est sympa, en fait, qui est dans la continuité, mais un peu différent de l'animation japonaise. Je ne dis pas que c'est une révolution, mais en tout cas, je retrouve mes petits là tout en retrouvant un petit truc différent. Et comme je le disais tout à l'heure, notamment dans les scènes de mano à mano, et il y en a quand même pas mal dans le truc, ou dans les scènes d'acrobatie de Lupin, par exemple. exemple, je trouve que c'est vraiment payant et c'est vraiment sympathique. Et c'est d'autant plus cool que, par contre, il y a aussi des animations beaucoup plus souples, notamment chez certains personnages féminins. Il y a un personnage de femme fatale, par exemple, où vraiment, très clairement, il essaye de la rendre extrêmement sensuelle, donc avec une animation qui est beaucoup plus en souplesse, avec beaucoup plus de trucs et tout. Je trouve que ça marche plutôt bien. Moi, là où j'ai un problème, et ça, c'est un problème général que j'ai avec les films en images de synthèse qui viennent de l'animation japonaise, c'est que moi, je pense très sincèrement que le dynamisme de l'animation japonaise, qui a fait que aussi que l'animation japonaise a autant brillé dans le cinéma d'action, notamment, et je trouve qu'on devrait en parler plus en capture. Mmh, je lance un appel à Stéphane Mosiakis qui est face à moi là.
Parce que je suis le patron, c'est ça.
Je trouve qu'on devrait parler plus de Ninja Scroll, des trucs comme ça, mais elle vient aussi de ces restrictions budgétaires. C'est-à-dire que, oui, je suis au courant, il y a l'héritage pictural japonais qui est indéniable, je suis au courant de tout ça. Peut-être moins que d'autres personnes, mais je suis au courant de tout ça. Il y a l'héritage du manga, etc. Mais il n'empêche que c'est du cinéma qui n'a pas du tout les mêmes moyens que le cinéma américain et qui l'a assumé, qui a essayé de travailler autour de ça. Et il suffit de regarder, je ne sais pas moi, même des séries américaines qui étaient partiellement animées parfois en Asie, hein, je suis d'accord, mais des séries américaines, je ne sais pas, on va prendre des trucs un peu de merde comme Les Maîtres de l'Univers, et tu compares ça, parce que pour le coup, c'était beaucoup animé aux États-Unis, et tu compares ça avec des séries japonaises, et tu comprends tout de suite qu'au Japon, ils avaient compris comment pallier justement à ces restrictions budgétaires et rendre un truc en même temps hyper dynamique, sans avoir les moyens, je ne sais pas moi, de Batman, de la série animée, de Batman, ouais, de Bruce Timm. Et le truc, en fait, c'est qu'ils ont donc tiré de ces restrictions plein de trucs qui sont typiques du langage de la japanime, notamment avec le travail sur la profondeur, sur la pose, encore une fois, et tout. Et je trouve que très souvent, quand ce cinéma-là passe en image de synthèse, le fait qu'ils aient plus de restrictions d'un seul coup, notamment au niveau des mouvements d'appareil et tout, fait que en fait ils perdent le sens et l'efficacité même en fait de ce mouvement-là, et c'est pour moi, alors c'est
dépend,
évident chez Aramaki,
mais
là ça se sent aussi dans Lupin 3, et je trouve que c'est pas
après l'efficacité des maîtres de l'univers, pour prendre l'exemple que tu cites, hein, elle est toute relative, parce qu'en fait il y a quand même énormément de réutilisation en fait de certaines planches, c'est-à-dire qu'en fait un pas de course en fait de Musclor, oui. Tu vois, et je veux dire, il est répété ad vitam, quoi.
Là où c'est un bon
ce que les Japonais, à ma connaissance, ne font pas, c'est-à-dire beaucoup moins. C'est-à-dire que pour moi, ça me semble beaucoup moins évident quand je regarde des épisodes de Dragon Ball, tu vois. Alors certes, tu vois, je veux dire, moi je prends à égalité de ce que je connais, tu vois. Je veux dire, ça me semble beaucoup moins évident dans Dragon Ball que dans... Ouais, mais putain, pas à ce point, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, les trucs, ils changent les fonds, ils reprennent les animes, tu vois, et en fait, ils changent juste le décor, tu vois. Ils changent le positionnement de la caméra.
Moi, je pense que le vrai problème fondamental, c'est que les maîtres de l'univers étaient faits en essayant de calquer ce qui se faisait plus ou moins en live. Pour être très, très grossier. Et là où la Japanime, très rapidement, a trouvé un langage qui lui était propre, qui a été réapproprié après, d'ailleurs, par le cinéma live.
Ouais.
On
va loin. Hein.
Et je trouve, je reviens à Lupin 3, je trouve que, mais je pourrais encore une fois parler de Appleseed sur des trucs comme ça et tout, mais je trouve que du coup, souvent dans le cinéma d'animation, d'image de synthèse japonais, du coup, on perd ça. Enfin, moi, je le perds, je le retrouve pas en fait, et ça me manque. Et je trouve que Lupin 3 est aussi plombé en fait par ça. C'est-à-dire qu'il y a plus ce travail de restriction nécessaire, et moi ça me manque, et en tout cas je pense que ça joue en défaveur du film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
C'est tout ce que tu avais à dire sur le film. Bravo, quoi. On a fait un gros tunnel là-dessus, c'est vrai, mais je pense que c'est un des trucs qui est important, parce que je pense que aussi il y a cette problématique vis-à-vis d'un personnage qui est quand même assez adapté. En fait, on l'a plusieurs fois. C'est aussi pour ça que je pense que le film se tourne un peu vers l'international. C'est-à-dire que c'est quand même un personnage qui a une grosse cote de sympathie en dehors du Japon. Et en fait, c'est aussi étrange, finalement, de le voir pour la première fois en image de synthèse. Ça donne c'est quand même quelque chose où on peut dire que, tu vois, nous, par exemple, à notre âge, on a pu grandir avec, ne serait-ce que, comme tu disais, avec Edgar de la Cambriole, quoi, avec la logique de cette série. Donc le truc, si tu veux, c'est que je pense qu'il y a aussi un espèce de détachement qui peut être un peu bizarre, que peut-être les enfants qui vont découvrir le personnage avec ce film-là n'auront absolument pas, quoi. Tu vois, c'est pour moi, c'est un des points. Voilà. Et après, tu parlais d'animation et tu parlais de la façon d'utiliser les choses, mais c'est vrai que, en fait, en termes de mise en scène pure, après, derrière, bah oui, il y a aussi cet appareillage-là, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, ils essayent vraiment de trouver un moyen d'ultra-dynamiser, en fait, si tu veux, mais presque à un point où.
Oui, mais c'est contre-productif, en fait.
Bah, t'as plus de physique. En fait, c'est ça. T'as la physique de la caméra, en fait, devient un peu, comment dire, c'est comme si l'opérateur qui était derrière, il faisait son tour à, comment t'appelles ça, à 180 degrés en une demi-seconde, tu vois.
C'est pas moi, c'est pas l'absence de physique qui me gêne, moins que la recherche du sens, en fait, de ce mouvement-là, quoi.
C'est-à-dire oui, bien sûr, oui.
Moi, un mouvement d'appareil pour
faire... Mais moi, souvent, le sens de ce genre de mouvement-là, il commence par la physique. Pour moi, pas forcément, c'est pas automatique, ce que je veux dire.
Ça, c'est un grand débat sur lequel on va pas se lancer. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais,
non, ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est qu'en fait, il y a au moins. Tu peux faire des mouvements très rapides qui sont impossibles à faire en machinerie, tu vois. Mm. Mais ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est qu'il y a quand même. Tu es quand même censé avoir au moins un point de repère, tu vois. C'est ça que.
Encore une fois, c'est la question de la contrainte et qu'est-ce que tu fais avec ça quand il n'y a plus de contrainte, en fait. C'est-à-dire à quel point tu réfléchis au truc et tout. Et encore une fois, je pense que sur des cinéastes comme lui qui sont pas des gars je veux dire, c'est pas Spielberg quand il va faire Tintin, enfin je parle de Tintin tu y penses, enfin moi j'y ai beaucoup pensé hein, à Tintin mais Spielberg quand il fait Tintin il se permet de faire justement sa caméra est complètement affranchi de toute limite physique et tout. Mais c'est Steven Spielberg, quoi. Et là, c'est pas le même niveau et ça se sent. Et je pense que sur un mec comme lui...
En fait, si tu veux, la problématique, c'est qu'il y a quelqu'un pour conceptualiser dans Tintin, si tu veux. C'est-à-dire que, oui, tu peux physiquement faire le plan séquence qu'il fait, par exemple, si tu veux. Prenons cet exemple monstrueux, toi, dans Tintin. Mm. Tu peux le faire. T'en as pas des trucs à ce point-là dans Lupin 3. Mais, en fait, le truc, c'est qu'il y a quelqu'un pour les conceptualiser, les rendre totalement limpides, les rendre totalement, dynamiques.
Surtout efficaces, puis qu'elles ont un sens, quoi. Voilà. Tu vois, qu'elles fonctionnent dans le mouvement du truc.
Alors que là, en fait,
pas juste bouger pour bouger. Quoi. Et là, c'est vrai que on est un peu trop là-dedans. Quoi. Je pense que c'est en fait ce réel, il est encore une fois, c'est là où je disais que c'était un faiseur, c'est que je peux pas avoir de, j'ai pas spécialement de grief contre lui, mais je trouve que c'est un mec qui est pas, il est très obéissant en fait, il est très soumis et finalement il fait les choses très propres comme un bon premier élève, mais encore une fois ça. Ça manque de chair, quoi, tout ça.
Moi, je pense que le film, il souffre aussi d'une des, peut-être, contraintes d'une façon de penser, si tu veux, les franchises au Japon, tu vois, qui, en fait, il faut qu'il y ait, des points de rapport, en fait, du fanservice, en fait, si tu veux. C'est, en fait, dans le jeu vidéo, on le voit beaucoup, ça, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, quand un animé ou un manga est adapté en jeu vidéo, en fait, automatiquement, il faut vraiment reprendre les mêmes stories, les mêmes trucs, etc., etc., les mêmes storylines, les mêmes... Et en fait, surtout, bien voir les persos qui sont populaires, bien faire en sorte qu'il n'y ait pas, en fait, on ne sorte pas des clous. Mmh. Et le film ne va pas à ce point-là, là-dedans, je trouve. C'est-à-dire, mais parce qu'il y a quand même des nouveaux persos, des trucs comme ça, tu vois. Mais, par contre, je pense que le plaisir qu'on en prend sur le film, il est clairement lié à la source d'origine, beaucoup plus qu'à la fabrication, au final, si tu veux, du film. C'est-à-dire, pour moi, il y a un plaisir de se replonger dans cet univers-là, de voir que certains codes de cet univers-là sont respectés, tu vois, de voir une aventure, entre guillemets, 70s, tu vois, etc., etc., ce qui est vraiment l'ADN du personnage, tu vois. Et en fait, c'est relativement respecté, donc en fait, t'es bien, ça fonctionne, mais, si tu veux, après, la fabrication, et j'ai envie de te dire, le traitement en soi... Si tu veux, et là, rapport à l'image synthèse, rapport au scénar, à ce que ça raconte, c'est un peu plus faible, quoi.
Bah oui, puis t'as pas vraiment de payoff et tout, quoi. Après, encore une fois, c'est vrai, puis je pense qu'il faut qu'on termine quand même là-dessus. C'est un film qui est pas désagréable, parce que comme tu viens de le dire, finalement, c'est un film pas si fréquent que ça. Des films d'aventure comme ça, si tu es à cette époque-là, t'en vois très très peu, que ce soit en live, en anime, en n'importe quoi, tu vois. T'en vois très peu. De toute façon, comme je le disais aussi en ouverture, c'est un personnage qui en lui-même, enfin, je veux dire, il n'a pas perduré aussi longtemps pour rien, Lupin. Donc,
clairement.
Donc il est de toute façon de fait par son physique, j'ai envie de dire charismatique, par son comportement atypique.
Et respecté. C'est-à-dire que c'est relativement respecté dans le film.
Mais c'est respecté totalement. Dans le film, peut-être un peu trop. C'est aussi peut-être ça aussi un des problèmes. Et ça reste quand même. Alors, j'aime pas, moi, ce genre de truc. Je trouve ça un peu condescendant et un peu facile. Mais ça reste quand même de la belle ouvrage. C'est-à-dire que c'est quand même bien fait. C'est quand même hyper propre. Sauf que bah, c'est un peu trop propre, c'est peut-être un peu trop bien fait et que ça rue pas assez dans les brancards.
Et puis je pense qu'il y a une ombre énorme aussi. Quoi.
Voilà, derrière lui. Je pense que voilà, pour terminer aussi sur cette comparaison avec Tintin, c'est que mine de rien, Tintin, c'est un film un peu taré, quoi. C'est un film qui est un peu jeté. C'est un film qui te propose justement ce plan séquence qui est un truc de dingue. C'est un film qui te propose des séquences qui va très loin dans certains gags où il y a Captain Haddock qui fait un row et t'as une séquence de flashback qui est juste complètement délirante avec une attaque de bateau et tout. Et c'est ça qu'on aime aussi dans Tintin. C'est ce grain de folie inattendu. Lupin 3, finalement... pâtit un petit peu, moi je pense, au niveau de la mise en scène, de son passage à la 3D. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième truc, c'est que finalement, il n'y aura rien qui va vraiment vous surprendre là-dedans. Il n'y aura aucune réelle réinvention du personnage. Les méchants, ils restent dans des sentiers ultra balisés. Le MacGuffin, le truc après lequel il court, bah, il a pas forcément beaucoup de saveur ou de surprise là-dedans, quoi, ouais. Voilà. Et voilà. Et du coup, à force de respecter les trucs et de rester bien sagement dans les clous, et ben, il livre un truc qui est, ma foi, sympathique, jamais antipathique, mais jamais exaltant non plus et enthousiasmant.
Moi, l'ombre géante dont je parlais, c'était plutôt celle de Miyazaki en l'occurrence. Hein, sur Tintin, mais moi, je pensais vraiment à Miyazaki parce qu'on peut pas, enfin, pour moi, on peut pas vraiment comparer non plus à Tintin au final. C'est-à-dire que oui.
Miyazaki, c'était la rencontre entre une super franchise et un réalisateur, peut-être un des
grands à devenir.
Des plus grands réalisateurs en activité aujourd'hui. Donc de toute façon, c'est incomparable. Ouais. Voilà.
Tintin, en fait, bon, revenons sur Tintin par contre aussi, c'est que Tintin, du coup, on le diffuse. Enfin, Rafik et toi, vous allez présenter...
Dans le festival de la bonne 3D. Voilà. Est-ce que c'est un festival ? C'est plutôt un programme récurrent
au Club de l'Étoile. À Paris.
Ouais, je suis très content, je vais rejoindre de temps en temps Raph pour... on va vous raconter des trucs. Est-ce que je vais parler de cinéma virtuel ? Putain, je vais peut-être parler de cinéma virtuel quand même, encore une fois. Je vais peut-être vous expliquer encore une fois comment on fait le cinéma virtuel, tout ça. Non, mais il y a...
Tu fais chier, Julien Dupuis. Ça suffit avec tes marottes.
Non, mais en fait, il y a plein de trucs à raconter en plus sur Tintin. Moi, j'ai eu la chance de... J'avais dans un magazine qui s'appelait Film à l'époque, j'ai eu la chance de faire plein d'interviews sur le film. Donc, je pense qu'on a plein de trucs à raconter avec Raph dessus. Puis Tintin, c'est un film qui est fascinant, quoi. Moi, je ne comprends pas ce semi-succès de Tintin encore aujourd'hui. Pour moi, c'est une...
Ouais, puis la perception des gens.
Énigme, ouais.
Mais ça, alors, vous allez en parler. Donc, c'est le 9 octobre, voilà. Au soir. C'est au Club de l'Étoile. Voilà. Donc, c'est le 9 octobre, c'est cette semaine, hein, puisqu'on diffuse là maintenant le podcast pour la sortie de Lupin 3 The First, qui, elle, a lieu le 7 octobre. Mm-hmm. Voilà.
Allez voir Lupin aussi, voilà. Quoi. Je veux dire, Eurozoom.
Mais Tintin, surtout.
Allez voir les deux, mais je veux dire, Eurozoom, c'est eux qui avaient ressorti aussi Akira.
Ouais.
Ça fait partie des distributeurs qui continuent à se battre pour faire exister les salles et tout. C'est hyper important.
Avec un certain succès pour le cas d'Akira.
Akira, ça a été vraiment un gros succès. Lupin 3, pour eux, c'est un gros risque. Je veux dire, ils l'ont acheté cher, le film et tout, c'est une grosse sortie. Il faut essayer d'accompagner ça et encore une fois, c'est hyper agréable à voir en salle, vraiment. Je vous promets pas non plus l'expérience cinéma de l'année, mais par contre, c'est hyper plaisant, quoi. Je veux dire,
ouais, en même temps, vu l'année, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir une très bonne surprise.
C'est mieux que Tenet.
Bon, merci Julien.
Mais merci Stéphane.
Merci Alain, merci à la technique,
en
fait vous vous en rendez pas compte parce qu'il a des doigts de fée, des doigts d'expert et il coupe au montage, mais il nous coupe 3 ou 4 fois pendant l'épisode, quoi. Voilà, donc.
Il est chiant, hein.
Merci Alain, merci.
Merci Alain quand même.
Merci à nos tipeurs de nous aider, de donner une petite pièce à Capture Mag plutôt que d'aller acheter une baguette de plus ou je sais pas, une tablette de chocolat ou ce genre de choses.
Certains d'entre vous se privent.
Voilà, se sacrifient pour nous.
Vous privez de glace.
Et nous prenons sacrifice au sérieux.
Donc ça vous fait du bien, votre cholestéral.
On sait très bien que, par exemple, quand votre enfant n'a pas eu sa petite pièce la souris n'est pas passée, c'est pour le tipi.
Tu as dit, bah ouais, mais la petite souris contribue à Capture Mag, et la petite souris a raison.
Voilà. Donc merci, en fait, merci à vos tipeurs.
Il est temps d'arrêter cet épisode, alors arrête.
Merci aux tipeurs, en fait, sans déconner. Pour nous soutenir, ceux qui ne l'ont pas encore fait ou ceux qui ne le savent pas encore, il y a une adresse, c'est tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Pour nous écouter, il y a plusieurs sources. Hein,
allez, vas-y.
Plusieurs agrégateurs de podcasts, comme on dit, tu vois, dans le jargon. Quoi. SoundCloud, Deezer, Spotify. Vous pouvez aller aussi sur le site capturemag.net. On est aussi sur YouTube. Sur YouTube, on a des vidéos. On a parlé un petit peu de Belmondo au début de l'émission de Belmondo.
Très belle
Arnaud,
vidéo.
Voilà, Arnaud Bordas et Cédric Fontana avaient fait une très très belle vidéo autour du personnage. Quoi. Un acteur qu'on apprécie particulièrement. Voilà, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain film.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.